Eh bien, merci d'abord d'être venus si nombreux ce soir pour écouter une conférence qui, par nature, nous intéresse tous et même nous concerne tous, puisqu'il s'agit de la démocratie. Et la démocratie, comme chacun sait, concerne chacun d'entre nous. Il était donc légitime que vous soyez et que nous soyons nombreux ce soir. Je n'avais pas prévu de parler du monde des débats, mais puisque l'on parle de démocratie, c'est le moment que je choisis pour le faire. Le monde des débats est un mensuel qui se propose par les sujets qu'il traite et l'ouverture avec laquelle il les traite, c'est-à-dire faisant une large place au débat et aux opinions diverses, il se propose d'élargir, de creuser l'univers de la démocratie dans lequel nous vivons. Mais la question qui sera posée ce soir est celle-ci. Sommes-nous, avec la généralisation des ordinateurs et leur mise en réseau, ce qu'on appelle communément l'Internet ou la toile ou le web, sommes-nous au seuil d'une ère nouvelle, de l'ère de la démocratie électronique? C'est donc le titre de la conférence de ce soir. Une ère nouvelle qui introduirait une démocratie autre, d'une autre nature, ou bien s'agit-il simplement d'une extension, d'un domaine que nous connaissons bien, celui de la discussion, justement, et du débat? C'est la question donc qui est posée ce soir, et pour y répondre, vous verrez qu'il faut d'abord s'entendre sur les termes, et notamment sur celui de démocratie. Thierry Leterre est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, autrement dit Sciences Po, et il est chercheur au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, dont d'ailleurs le directeur Pascal Perrineau est un des membres fondateurs du Monde des débats et un de ses réguliers contributeurs. Thierry Leterre travaille sur la démocratie libérale, ses idées et son évolution, ce qui nous amène à la conférence de ce soir.
Merci. Mesdames, Messieurs, c'est un thème singulier que celui de la démocratie électronique. L'expression n'est d'ailleurs familière qu'à un public spécialisé. D'ailleurs, quand je suis arrivé, il y avait un jeune homme qui demandait, je ne sais pas s'il est là, sur quoi porte la conférence ce soir. J'ai répondu à la démocratie électronique, il m'a dit « qu'est-ce que c'est ?» Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela renvoie à l'idée que l'utilisation des ordinateurs, leur mise en réseau, bref, l'univers de ce que nous appelons désormais les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pourrait contribuer à rénover, et l'on dit bien plus souvent encore révolutionner, l'expérience démocratique. Pour l'esprit habitué à la vision largement répandue des enjeux liés à la diffusion des technologies informatiques, c'est une idée un peu curieuse. Le public français n'entend en général parler d'informatique que sur les deux registres, apparemment contradictoires, d'une nouvelle économie riche de promesses, ou bien, à l'inverse, d'une sorte de méfiance avérée pour une conception interlope des réseaux informatiques où s'égrène la liste des forfaits qui s'y trouvent commis, attaques de virus récemment, pédophilie, pornographie, racisme. En France, nous avons tendance à parler des ordinateurs et de leur impact sur la société, par le biais d'une sorte de méfiance atavique à l'égard d'un délire, ou bien d'un enthousiasme plus ou moins de commande pour les aspects les plus mercantiles de l'évolution des technologies informatiques. De ce fait, il n'est pas facile de repérer la place que tient parmi nos images de la société de l'information, l'expression je la mets en guillemets, entre guillemets, la préoccupation pour la démocratie s'il en est une. Et y réfléchir, comme je vous propose de le faire ce soir, nous fait sortir brutalement de ces images d'épinal des réseaux informatiques ou bien de ces contes de sorcières sur les méfaits des ordinateurs. En sortir, certes, mais comment? Ici, un esprit non prévenu doit soulever une sorte de motion d'ordre préliminaire. En quoi les machines informatiques ont-elles affaire à la politique et à cette forme précise de politique qu'est la démocratie? Le rapprochement ne s'impose nullement, pas plus du moins qu'avec n'importe quelle autre technique. Il ne semble pas qu'on ait vraiment envisagé que, je ne sais pas moi, le marteau-pilon ait été un vecteur de démocratie. Pourtant, ce fut une des grandes inventions de l'ère industrielle. Il n'y a pas eu de démocratie du réfrigérateur, il n'y a eu que très indirectement une démocratie de l'automobile. Alors pourquoi diable avoir à parler d'une démocratie électronique, d'une démocratie des des ordinateurs. D'où ma question ce soir. Qu'y a-t-il d'aussi spécial dans ces machines pour que nous puissions les considérer comme des instruments de démocratie? Répondre à cette question exige de se rappeler que la démocratie qualifie moins une sorte et une forme de régime qu'une forme et une sorte de sociologie politique, d'une sorte de vie sociale et de manière de vivre ensemble, comme son plus grand analyste, Tocqueville, l'avait déjà bien affirmé et repéré. C'est sur ce point, mesdames et messieurs, que j'insisterai ce soir en montrant comment s'est constituée, à partir de la mise en réseau des ordinateurs, une forme de sociabilité tenant à quelques aspects essentiels de la constitution démocratique et de son lien social. Insister sur ce point, c'est forcément laisser dans l'ombre de nombreux enjeux et de nombreux enjeux passionnants. C'est aussi laisser dans l'ombre des expériences qui ont précédé celle sur laquelle je me concentrerai, celle de l'Internet, expérience dont nous avons vécu les prémices, par exemple avec le Minitel et dans d'autres pays avec ce qui s'appelle en québécois les babillards. C'est aussi laisser de côté un appareil descriptif sur les usages de l'informatique dans la sphère politique. On pourrait réfléchir à ce à la manière dont on se sert de l'informatique dans le domaine politique, avec les premières campagnes aux États-Unis sur le web, qui ne marche pas très bien en fait pour l'instant, avec l'idée qui marche beaucoup mieux des cyberpétitions, avec même des attaques via le cyberespace, c'est-à-dire quand on bloque un site d'un parti ou d'un mouvement d'opinion qui ne vous plaît pas, vous le submergez sous les emails de protestation, etc., etc. Donc cela, je ne l'aborderai pas. J'exclurai également du centre de mon propos les questions qui touchent au gouvernement électronique, surveillance par vidéo, répertoriation des informations personnelles par les gouvernements ou par les grandes sociétés, etc. Et je me concentrerai sur ce point précis. Comment surgit, dans l'existence démocratique, l'ère de l'information, dont je voudrais, avec vous ce soir, interroger la genèse. Cela demande de politiser la société de l'information. L'Internet cristallise les grandes évolutions de la nouvelle sphère technologique. Il avait été accueilli avec méfiance et restriction dans notre pays. À première vue, nous sommes très loin de cette suspicion initiale. Le pays, notre pays, la France, paraît tout entier avoir basculé dans la manie informatique, rythmée par les annonces gouvernementales, le matraquage publicitaire sous toutes ses formes et la création d'entreprises dans tous les secteurs imaginables de l'activité économique liée à ce domaine. On peut légitimement parler, dans les deux dernières années pour ce qui concerne la France, d'explosion du phénomène Internet. Mais si l'on y regarde plus attentivement, le bouleversement n'est peut-être pas aussi radical. L'inflation des discours tenus sur les nouvelles technologies en direction du grand public masque mal une sorte de pauvreté des registres utilisés pour la décrire. Miracle économique ou cybercriminalité, c'est au fond les deux faces d'une même pièce et de petites monnaies. Cette pièce, c'est une vision exclusivement utilitariste et je dirais trivialement mercantiliste, sachant que pour moi il y a des usages hautement commerciaux qui sont légitimes, mais il y a aussi un mercantilisme assez bas, des réseaux informatiques. Dès 1987, dans un livre de référence, Paul Mathias avait anticipé ce mouvement et sa signification pour une conception politique de l'Internet. Paul Mathias écrit dans son ouvrage « La cité Internet ». L'instrumentalisation de l'Internet participe d'un véritable principe de dépolitisation. Ce qui importe, ce n'est plus la vision communautariste qu'il pourrait receler, cette nébuleuse démocratique qu'on a vite fait de refouler, mais ce sont les bénéfices économiques et sociaux qu'il est permis d'en espérer, et la « croissance » entre guillemets qu'on devine dans la réduction des distances et le reversement des temps. Dépolitisation de la question. Voilà de quoi il s'agit dans les grands discours qui sont tenus vers le public français, y compris les discours politiques. Et de ce fait, parler de démocratie électronique, c'est accepter de repolitiser la question dans un mouvement dont l'emblème est une expression, forgée au sein des milieux militants de l'Internet. Cette expression, c'est le netizen, terme forgé sur le grand terme démocratique, le citoyen, citizen en anglais. Que l'on ait inventé une terminologie propre, calquée sur le registre politique pour qualifier le rapport d'un utilisateur au réseau informatique et notamment au réseau Internet, donc le netizen, le net citoyen si vous voulez, indique suffisamment qu'un espace s'est ouvert à la marge des préoccupations utilitaires, ces préoccupations dont on nous ressasse l'avantage, un espace qui tient aux politiques. Cet espace, je me hâte de le dire, n'est pas purement intellectuel, pour autant qu'on puisse mener des sondages d'opinion et des enquêtes de pratique sur ce que font les gens sur les réseaux. Un récent sondage donné par le Figaro Magazine montre par exemple que les internautes français sont plus sensibles que la moyenne aux questions politiques. Ce n'est qu'une indication, mais elle montre qu'il y a peut-être plus qu'une espèce de délire intellectuel sur ce que peut être la politique des réseaux. Même si, par ailleurs, en tant que technicien de l'enquête, je dirais que la méthode retenue peut avoir, par jury, peut provoquer des biais. Mais enfin, retenons l'idée, il y a quelque chose qui peut se jouer entre la politique et l'Internet, et ce n'est pas simplement une considération tout à fait théorique. Et c'est ici, d'ailleurs, que prend son sens la question que j'évoquais tout d'abord. Qu'est-ce qui peut faire ou qu'est-ce qui pourrait faire des ordinateurs autre chose que des machines? Pourquoi en attendre autre chose que ce que nous attendons d'ordinaire des autres machines, c'est-à-dire de l'utilité, du confort et de la rapidité, voire du silence? La réponse, c'est que les ordinateurs sont des machines tout à fait spéciales, des machines au service de l'intelligence. Et la question de la démocratie soulevée par les ordinateurs, c'est la question des rapports entre les pouvoirs spirituels de l'être humain et le régime politique que nous appelons la démocratie. Pour comprendre ce lien et la réponse à cette question, il faut comprendre que les ordinateurs aujourd'hui se situent en quelque sorte au-delà du calculus. Déjà, qu'est-ce qu'un ordinateur? Oui, il y a une définition très simple. Un ordinateur, c'est une machine qui permet de transformer toute information en série codée de 1 et de 0. Bref, en termes à peine techniques, un ordinateur se définit comme une machine à numériser. Cette caractéristique prend toute sa valeur si l'on comprend ce qu'elle signifie en profondeur. Elle fait de l'ordinateur non pas forcément une machine intelligente, c'est le rêve qui est poursuivi par tous ces chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, recréer grâce aux ordinateurs l'intelligence et pourquoi pas l'intelligence humaine. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais ce n'est pas mon problème ce soir. Non pas donc une machine intelligente, mais une machine au service de l'intelligence, car l'intelligence fonctionne essentiellement par le biais de la communication et de l'information. Parce que les ordinateurs sont devenus des machines communicantes, elles sont au service de ce qui est au cœur de la conception normale des pouvoirs intellectuels de l'être humain, le fait de transformer le monde en quelque chose qui est une information qui peut se communiquer. Sous une forme initiale, ce service de l'intelligence a été un service minimum. Les ordinateurs se sont d'abord limités au domaine, certes le plus prestigieux, mais le plus sec de l'intelligence, la rationalité mathématique. Les ordinateurs, d'abord, quand ils ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont servi à faire des calculs. De ce fait, le computer, comme on disait avant d'avoir inventé le mot ordinateur, comme on l'a longtemps dit en Suisse, a d'abord été l'image de la rationalité technoscientifique la plus rigoureuse, peut-être la moins créative, et dans les moindres détails, l'informatique se présentait comme une discipline, c'est-à-dire quelque chose qui était disciplinaire, pas trop marrant à faire. Je me souviens de ce temps où on voulait absolument inculquer l'informatique à des littéraires comme moi, et on leur apprenait, enfin on essayait de leur apprendre à programmer. Totalement inutile et parfaitement inintéressant pour quelqu'un qui ne fait pas de l'informatique de haut niveau. Donc au départ, l'intelligence des ordinateurs était certes excitante pour les mathématiciens, mais du point de vue de ce que nous appelons normalement être intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de communiquer, de parler, etc., ce n'était pas très passionnant. Il est vrai aussi que les ordinateurs, aujourd'hui encore, sont de merveilleux calculateurs et de merveilleux supercalculateurs. Mais enfin, quand on voit ce qu'on fait avec les ordinateurs, en général, on calcule peu, si ce n'est éventuellement nos découvertes à la banque. En fait, une rupture s'est produite dans l'histoire de l'informatique, et cette rupture, ça a été l'invention du micro-ordinateur, de l'ordinateur personnel. D'abord autour du standard PC lancé par IBM, et puis surtout autour du premier grand ordinateur, qui était en fait tout petit, de la firme Apple, le Macintosh, qui a permis de doter la communauté informatique d'un standard ouvert, et un standard appréciable. Qu'est-ce que ça signifie ? L'ordinateur devient quelque chose de personnel, comme le dit le terme « personal computer », ordinateur personnel, quelque chose qu'on s'approprie. Eh bien, la signification de cette appropriation, c'est une espèce de régression bizarre. L'ordinateur était une machine parce qu'il est devenu personnel, parce qu'il est devenu un prolongement de nos usages, il est devenu un outil. Ça, c'est bizarre parce que la marche du progrès techno-scientifique, c'est normalement de faire des outils et de les transformer en machines, ce qu'on appelle les machines-outils. Eh bien, l'ordinateur a fait exactement l'inverse. C'était une machine, c'est devenu un outil. Un outil mis à la disposition de l'utilisateur, comme on le dit parfois, convivial. Sympa à l'utilisateur, comme disent les Américains. Avouons-le, pour ceux d'entre nous qui utilisent régulièrement ces machines, la convivialité des ordinateurs est encore un tout petit peu prussienne. C'est-à-dire qu'elle est un peu psycho-rigide sur certains points. Mais un mouvement est amorcé qui devrait continuer de s'approfondir. Il est non pas de plus en plus simple, sauf dans les publicités pour les ordinateurs, mais de moins en moins compliqué, dans la réalité, de se servir des ordinateurs. Ce mouvement est très important parce que cela a permis de libérer les ordinateurs du registre strictement mathématique dans lequel les premiers calculateurs étaient enfermés. J'aimerais, pour comprendre ce mouvement et le décrire un peu plus précisément, recourir à une très célèbre distinction d'un vieil auteur. Je vous parlerai de quelques vieux auteurs. Celui-là a le mérite d'avoir été un des premiers penseurs de l'ordinateur. Il s'agit de Blaise Pascal. Et Pascal faisait une différence qu'on connaît en général très bien entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, eh bien, c'est justement la rationalité mathématique, et l'esprit de finesse, c'est justement toute cette intelligence communicative où les choses se passent de manière souple et parfois irréductible au calcul. Eh bien, contre toute attente, et même contre les attentes les plus raisonnables, les plus sérieuses, les ordinateurs, qui étaient des machines à géométrie, d'esprit de géométrie, sont devenus des machines, ou plutôt des outils, à esprit de finesse. Nous sommes passés de l'un à l'autre. Et le programme moderne de la technique, qui semble être de plus en plus rationnel, être de plus en plus technique, être de plus en plus déductif, logico-mathématique, semble être curieusement démenti par ces merveilleuses machines logico-mathématiques qui nous permettent non plus de faire des maths, mais de communiquer entre nous. Comme je le disais, il ne s'agit pas de dire que les ordinateurs ne sont plus du tout des supercalculateurs, et de nier des recherches de l'ordre de l'intelligence artificielle. Mais singulièrement, si l'on travaille plutôt en sociologue sur ce que font les gens avec des ordinateurs, et non pas simplement les mathématiciens avec leurs ordinateurs, on s'aperçoit que, curieusement, on calcule peu avec les ordinateurs, et qu'aujourd'hui, les ordinateurs nous servent à jouer, à écrire, à lire, à dessiner, et même à apprendre. Et à apprendre soit par des techniques du style CD-ROM, DVD, mais aussi par la mise en relation assez extraordinaire de cette immense bibliothèque virtuelle qu'est l'Internet. Donc on est bien loin de ces utilisations strictement mathématiques. On peut avoir de manière extrêmement large des services, parfois très modestes mais bien utiles, comme faire ses courses en commandant son panier de ménager ou de ménagère sur l'Internet. Parfois extrêmement complexes, comme consulter des mégabases de données, ou bien encore, phénomène qui trouble souvent, ces millions de pages personnelles qui sont sur le web où les gens racontent un peu tout, n'importe quoi, et parfois des choses très intéressantes. Ça va de leur généalogie et de leur vie la plus triviale à leurs réflexions les plus profondes et parfois les plus émouvantes. C'est ce qu'on appelle le cyberespace. Cet univers n'a rien qui ressemble à l'univers d'ordre que promettait la rationalité mathématique qui avait présidé à l'invention des ordinateurs. Il y a une espèce de surenchère dans l'information, de surabondance et même de grand bazar communicationnel dans l'Internet qui est curieusement produit par des ordinateurs. Ce qui fait des machines spéciales, ce qui fait des ordinateurs des machines spéciales, c'est que de la machine à l'outil, de la géométrie à la finesse, elles nous ont fait curieusement remonter la pente de notre propre civilisation technique en partant du calcul pour arriver au grand bazar de l'information. C'est ce que j'appelle la révolution qualitative. En effet, initialement, les ordinateurs gèrent des quantités, ils calculent. Eh bien, maintenant, les ordinateurs nous permettent de gérer un monde qualitatif, plus ou moins développé, ça va jusqu'à des mondes virtuels extrêmement complexes. Les avant-gardistes de l'Internet vous en parlent comme si tout le monde y avait accès. En fait, il faut avoir de très bonnes connexions et un certain nombre de connaissances. Mais même si on a quelque chose d'assez modeste, une connexion correcte à un ordinateur branché sur l'Internet, on s'aperçoit qu'il y a une extraordinaire richesse qualitative de textes, d'images, de sons, etc. À partir d'un système très simple, mais extrêmement ingénieux, qui est le langage de l'hypertexte sur le web, inventé par le CERN de Genève, il s'est produit une prolifération de documents qui contiennent tout et n'importe quoi et dont la richesse n'a d'égal que la diversité. C'est donc ce qu'on appelle parfois le cyberespace et qui présente un aspect un peu anarchique, où on trouve le meilleur comme le pire. Il est d'usage, quand on est quelqu'un de sérieux, ce que je ne suis pas, de dire que c'est très dangereux, qu'on trouve un peu n'importe quoi sur l'Internet, des choses totalement inintéressantes, voire des choses dangereuses. Telle n'est pas mon expérience. On y trouve énormément de choses riches et intéressantes, à condition de ne pas mépriser les intérêts des autres. Bien sûr, on peut se demander si c'est extraordinairement intéressant le site Internet d'une école de quartier, où les élèves de 6 ou 10 ans auront publié des dessins, des petits textes, l'orthographe corrigée par le professeur des écoles qui sera repassé derrière pour essayer de voir comment ils font. Est-ce que c'est très intéressant? Ben oui, ça l'est pour eux, ça l'est pour ces enfants. Et même si ça ne concerne que 35 enfants, leurs parents, les amis, le tonton et la tata, c'est quand même très bien. C'est remarquable de donner cet outil. Donc ne méprisons pas les intérêts des autres, même s'ils ne concernent que 35 personnes, un site web, après tout, c'est une manière de communiquer, de faire des choses et de dire, ben voilà, je m'ouvre au reste du monde en publiant modestement, à ma place, ce site qui a simplement pour but de dire des choses qui me paraissent d'un certain intérêt. La fête de quartier n'est pas à mépriser. Donc, on a cette anarchie réelle, mais en même temps des intérêts divers et des forces tout à fait remarquables dans une espèce de grand chantier informationnel qui est loin d'être négligeable. Le point important, c'est que ce grand bazar de l'information, loin d'être la pointe d'une culture ultra-rationalisatrice, technique en général, eh bien, donne une espèce de foisonnement le plus divers de l'information. Et ça nous emmène très loin de l'univers informatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces séries ou de ces films des années 60 et 70, où on voyait des supercalculateurs sachant tout sur tout, espèce de Big Brother qui maîtrisait le monde entier. Cela est aussi une part de la réalité informatique, mais ce n'est pas la seule. Et ce qui est étonnant, c'est que justement, ce n'est pas la principale dans nos usages communs. Les Français ont inventé le mot « ordinateur » pour décrire les machines que les Américains avaient appelées les computers. Ordinateur, c'est ce qui ordonne. Quand on est en face de l'Internet, on s'aperçoit que les ordinateurs servent à introduire autant d'aléas que d'ordres dans le monde, au moins virtuel. C'est pour cela qu'il faut parler de révolution qualitative qui nous a fait passer du numérique de géométrie au numérique de finesse. Ce renversement nous rapproche de la question démocratique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'est opéré par un biais, et il continue de s'opérer par ce biais, ce que j'appelle le biais des micro-mandarins. Tout ce qu'on vous raconte en général sur les ordinateurs, c'est que c'est high-tech, que c'est une civilisation dont nous n'avons pas la moindre idée, que les gens qui font de l'informatique ont un langage très spécial, c'est pas tout à fait faux, et qu'ils pensent autrement, que ce que vous allez faire, ce que je vais faire, ce que nous allons faire avec les ordinateurs, nul ne l'a jamais vu. Qu'est-ce que nous faisons en réalité avec les ordinateurs essentiellement? Nous lisons, nous écrivons, pour citer Julien Gracq, en lisant, en écrivant. On n'a jamais autant écrit et lu qu'avec l'Internet. Malgré le profil high-tech des ordinateurs, ce qui est remarquable, c'est que toute une partie de la communication par Internet, et une partie massive, passe par des choses qui nous semblaient très en retrait dans une civilisation de la communication que nous imaginions il n'y a que 10 ans comme essentiellement audiovisuelle. Le courrier électronique a réhabilité de manière forte la question de l'écriture comme outil de communication et comme outil de communication efficace. La société de l'information est une société où on lit et l'on écrit énormément. Passage, comme c'est une de mes obsessions, je voudrais vous dire qu'elle est partagée avec un certain nombre de commentateurs, et je voudrais vous lire ce passage de Streck dans un livre qui s'appelle « The Politics of Cyberspace », que je vais vous traduire le passage. « Quoique les évangélistes de la réalité virtuelle promettent des expériences totalement séparées des limitations du langage dans sa formulation ordinaire, le cyberespace dépend largement du langage. Le cyberespace n'étant pas l'expérience hors du texte, il réduit l'expérience au texte. Autrement dit, le cyberespace, c'est beaucoup d'écrit. C'est aussi du son, c'est aussi de l'image, mais c'est largement de l'écrit. Je n'ai pas développé les raisons pour lesquelles l'écrit est performant, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette citation, je mettrai une nuance. Streck dit le cyberespace réduit l'expérience au texte. Si on est attaché à une culture humaniste, nous savons très bien que le texte n'est pas forcément une réduction, que lire, que écrire est une prodigieuse ouverture au monde. Ce que nous avons vécu avec l'ouverture, avec l'aventure du livre, ce qu'on appelle la galaxie Gutenberg, eh bien, nous le vivons à nouveau avec les ordinateurs. Nous pensions que les magnétophones, les magnétoscopes, les télévisions et les radios allaient envahir notre espace, et nous nous retrouvons à lire, à écrire constamment. Et c'est là qu'il y a un pivot démocratique fort. Pourquoi ? Eh bien, parce que en renouant avec la communication écrite et la communication lue, nous revenons au XXIe siècle avec des formes sociales presque oubliées, tout ce qu'on mettait sous l'étiquette commerce au XVIIe et XVIIIe siècle. Le commerce, et notamment au XVIIIe siècle, ça devient l'échange entre les idées et les biens. Et on voit dans la culture précapitaliste, donc à partir du XVIe siècle, comment les circuits d'information suivent les circuits commerciaux. Ce qui voudrait peut-être dire que la nouvelle économie, ce n'est pas forcément une dérive de l'Internet, mais quelque chose qui nous fait retourner aux prémices de ce qu'on a appelé l'espace public, lorsque justement la circulation des biens marchands permettait aussi, notamment grâce aux marchands qui déambulaient à travers l'Europe, la circulation de l'information. Le commerce, c'est ce à quoi nous nous livrons sur les réseaux informatiques. Le commerce est tout autant celui des idées que des biens. En ce sens, d'une certaine manière, la nouvelle économie nous ramène au biais de l'économie précapitaliste, où la circulation des affaires d'argent étendait l'idée même d'intérêt public. Pour le dire brutalement, l'Internet, et c'est assez merveilleux, nous fait revenir 3 siècles en arrière. Et 3 siècles en arrière, nous revenons aux sources de la démocratie, de ce qui n'est pas encore la démocratie. Mais avant de pénétrer le sens de cet espace démocratique ouvert, ou plutôt réouvert par la communication, et notamment la communication de la lecture et de l'écriture, je voudrais insister sur un phénomène de rupture sociologique. Les échelles sur lesquelles nous raisonnons sont relativement modestes, moins de 3% de la population mondiale, avec quand même plusieurs centaines de millions de personnes, enfin plusieurs dizaines de millions de personnes. Ces 3% sont essentiellement concentrés dans les pays développés, et la moitié d'entre eux se trouvent d'ailleurs aux États-Unis. En France, une récente enquête Médiamétrie estime que les internautes représentent 15% de la population. Et encore, en comptant large, c'est-à-dire en comptant comme internaute la personne qui s'est connectée à l'Internet dans le mois. En utilisation régulière, on descend à moins de 10% de la population. Puisque, donc, c'est une restriction. Donc, nous ne parlons que de 7% des Français. 7 ou 10% d'entre nous. Les internautes sont les plus riches dans toutes les cas de figure, même si nous voyons dans certaines enquêtes, mais elles sont encore très peu fiables, qu'il y aurait un rapprochement socio-professionnel de l'ensemble des catégories professionnelles vers l'Internet. Mais c'est à confirmer. En tout cas, le mouvement fort des débuts de ces affaires de réseaux informatiques, ce sont les plus riches. D'ailleurs, pour ça, on peut faire un essor du commerce électronique, parce que précisément, les gens qui ont connexion ont en général un peu d'argent. Et pas seulement pour avoir acheté l'ordinateur et payé leur facture de téléphone. Autre facteur d'inégalité qu'il ne faut jamais oublier, sur les réseaux informatiques, les hommes demeurent dominants. 60% dans l'étude médiamétrie. Autrement dit, si la sphère démocratique est une sphère d'égalité, nous devons être très prudents sur l'idée de démocratie électronique, puisque nous constatons des ruptures sociologiques majeures. À vrai dire, le seul point sur lequel il y a renversement des contraintes sociologiques de dominance classique, hein, les plus riches, ceux qui ont le plus de pouvoir et le plus d'autorité, c'est le renversement en faveur des jeunes. C'est-à-dire que normalement, les jeunes sont plutôt du côté des catégories sociologiques qui sont encore en attente de prendre leur place dans la société. Ici, elles ont pris une large place dans les réseaux, puisque presque la moitié, enfin 40% de la population des jeunes entre 15 et 17 ans sont connectés, soit beaucoup plus que leurs aînés. C'est d'ailleurs la théorie de Nicolas Négroponte, un des grands inspirateurs de la réflexion sur les réseaux informatiques, une des grandes références dans les études sur les réseaux. Négroponte dit finalement le grand clivage, la grande inégalité n'est pas sociale, elle est générationnelle. C'est peut-être vrai, mais ça demande quand même à être vu, puisque par exemple la répartition entre les sexes est égale chez les jeunes comme chez les aînés, c'est-à-dire c'est toujours du 60-40, donc l'inégalité des sexes est toujours réduplicée, y compris chez les jeunes, et on peut se demander que si on s'évade des critères d'âge pour regarder les critères socio-professionnels, ce n'est pas toujours le cas. Autrement dit, ayant affaire à des échelles très très petites, on est largement loin de deux choses. D'une part, de l'égalité démocratique. D'autre part, comme le rappelait M. Brune, d'autre part, nous sommes très loin de l'universalité de la démocratie. La démocratie, normalement, c'est le pouvoir du peuple, donc normalement de presque tout le monde, et les réseaux informatiques, c'est la chose de pas grand monde. En tout cas, ceux qui sont sur l'Internet, c'est encore ceux qui sont dotés, en français comme en anglais, dont je prends les catégories, ceux qui sont dotés des trois grands C sociologiques, les concepts, la compétence et les connexions. Maintenant que j'ai insisté là-dessus, je dois dire que c'est un phénomène qui est encore bien répertorié. Et c'est quelque chose qui a été pris en compte dès le début. Dès 1997, par exemple, le Premier ministre Lionel Jospin, ouvrant son programme pour l'Internet, qui est un des axes de la politique gouvernementale, se souciait de ce qu'il appelait l'inégalité sociologique et géographique dans l'accès aux réseaux d'information. C'est un enjeu inévitable et important, mais la question, c'est quelle est sa place ? Quelle est la place qu'il faut faire à ces inégalités et à ce faible nombre de connexions sur le réseau quand on pense ou quand on essaie de penser la démocratie électronique. Le fait que l'utilisation des réseaux informatiques soit pour l'instant de facto réservée à des groupes socioculturels dominants ne doit pas masquer la tendance à l'accélération et à l'extension. Cette logique extensive des usages informatiques contribue à gommer progressivement les inégalités initiales. Là encore, gommer ne veut pas dire effacer totalement. Il y a notamment un accroissement considérable du réseau Internet, 40 millions d'utilisateurs à peine en 98, donc dans le monde, hein, 40 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est 4 fois plus, près de 160 millions de personnes. Donc on raisonne en général, quand on parle de démocratie électronique, sur une tendance forte et une extension, en se disant que ce mouvement qui est pour l'instant réservé à un petit noyau d'utilisateurs va s'étendre et que de plus en plus, les ordinateurs devenant de plus en plus simples, les communications téléphoniques de moins en moins chères et la fourniture de services publics, pourquoi pas, de plus en plus réelle sur ce créneau, eh bien, de plus en plus de personnes vont pouvoir avoir accès au réseau et les utiliser. Donc, si aujourd'hui nous raisonnons sur des échelles relativement réduites, ce n'est pas le cas aux États-Unis. La moitié de la population est concernée, mais ça n'est que la moitié par rapport à une démocratie qui devrait concerner tout le monde. Donc, si nous raisonnons sur des échelles relativement réduites, nous raisonnons aussi en tendance, ce qui fait que si la question de la démocratie électronique sociologiquement est encore une question limitée, elle n'est pas insignifiante en portée. Et en fait, il y a un grand modèle pour expliquer ça. C'est un modèle extrêmement célèbre, celui de Habermas et de l'espace public. Le philosophe Jürgen Habermas, en effet, a expliqué comment s'est constitué l'espace public moderne, en montrant d'abord qu'il y a un tout petit noyau de personnes concernées, puisque, comme il l'explique, je le cite, au XVIIe siècle, le public désigne la cour ainsi que la frange urbaine de la noblesse qui côtoyait dans les loges des théâtres parisiens la couche supérieure restreinte de la bourgeoisie. Bref, là, exactement au XVIIe siècle, pour la constitution d'un espace public pré-démocratique, ce que nous constatons avec les réseaux, les plus riches, les plus intégrés, ceux qui sont en voie de constitution d'une nouvelle sphère. L'histoire de l'espace public vue par Habermas est un processus d'extension et de modification et à partir de couches sociales initialement extrêmement restreintes. C'est le modèle que je vous proposerai en disant, après tout, si ça a marché pour l'espace public classique, pourquoi ça ne marcherait pas sur l'espace des réseaux ? Une fois souligné cet apport de la théorie d'Habermas, il faut également souligner autre chose, c'est que cet espace public est un espace fragmenté et que autant on peut raisonner en termes d'extension comme Habermas pour les réseaux, en revanche, on ne peut plus raisonner en termes d'homogénéité de l'espace public sur les réseaux. Quand nous parlons par exemple de cyberespace, c'est une métaphore, et c'est une métaphore finalement mal adaptée, dans la mesure où le réseau n'existe pas comme un espace, c'est-à-dire comme un horizon prédéfini. Ce n'est qu'une accumulation d'activités et nullement quelque chose qui définirait la possibilité de toute activité possible. Quand nous parlons dans la sphère politique, elle est bien balisée par des lois, par des règles et par le fait que nous appartenons à des communautés répertoriées institutionnellement. La municipalité, le département, la région, toutes ces catégories dont les Français n'ont pas grand-chose à faire, la nation. Très important, et la République encore plus importante. Donc nous appartenons à une communauté qui existe déjà. Sur les réseaux informatiques, sur l'Internet, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est l'inverse, et les communautés sont créées par ce qu'on y fait. C'est parce que j'ai envie de discuter sur l'histoire, sur la géographie, sur la philosophie ou sur un jeu de massacre comme Doom, que justement naît un espace de discussion et d'interaction entre des gens qui ont des intérêts très fragmentés. Donc, l'univers des réseaux se présente comme un espace public fortement segmenté. Dans un groupe de discussion, nous n'avons affaire qu'à des gens qui partagent le même intérêt. Si c'est celui des professeurs de philosophie, il ne recouvrera en aucune manière celui des admirateurs de Doom. De la même manière, un site web ne nous retient qu'en fonction de nos intérêts préalables, qui sont aussi divers que possible. Bref, un réseau informatique ne constitue nullement un espace de rencontre de toutes les activités possibles, potentiellement présentes sur la toile de l'Internet, il les juxtapose sans les surimposer. En ce sens, le cyberespace met à mal une certaine représentation de l'espace public démocratique fortement valorisé dans notre pays, celle qui se fonde sur l'idée d'un raisonnement public unifié prenant en charge l'intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt général sur les réseaux informatiques, il n'y a que des intérêts segmentés. Pour le coup, en France, on a plutôt tendance à dire que c'est une vision dangereuse de la politique et de l'espace public en général. Faut-il vraiment en redouter l'augure ? Eh bien, je crois que pour répondre à cette question, au lieu de dire « c'est affreux », l'univers des nouvelles technologies est un univers totalement segmenté. où je peux me passionner, moi qui suis français, pour la politique suisse, avec un Américain qui ne soit absolument pas connecté à la politique suisse, mais qui s'y intéresse, un chercheur, un étudiant, etc., qui donneront leur avis. Moi, je pense que dans le référendum de tel canton, telle position aurait dû être prise. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, ces gens? C'est affreux. Et peut-être que les Suisses ne s'intéressent pas à cette question. C'est la mort de l'intérêt général, où nous sommes supposés être rassemblés par les mêmes intérêts. Par exemple, en ce moment, nous sommes tous supposés de nous intéresser à la question du quinquennat. Nous sommes tous mobilisés par cela. Et si vous êtes sur un réseau informatique, eh bien, il peut y avoir des étrangers qui ne sont absolument pas concernés par la question, qui peuvent s'y intéresser. Un chercheur en sciences politiques pourra très bien, du fond de sa province américaine, se dire « Ah, c'est un débat passionnant, tenez, je vais y donner ma contribution. » Alors qu'un citoyen français peut dire « Écoutez, moi, ce n'est pas quelque chose qui me passionne fondamentalement, je ne suis pas intéressé à la Constitution. » C'est la mort de l'intérêt général. Nous n'avons pas d'intérêt commun. Pour ne pas trop avoir peur de ce spectre, qui hante le discours politique sur les réseaux, en disant que c'est très mal l'Internet, puisque des tas de gens très différents, et même des étrangers, peuvent se passionner pour des questions politiques qui ressortent notamment de notre compétence citoyenne. Je dirais qu'il faut remonter la question de l'intérêt général, et en se demandant pourquoi on a besoin d'un intérêt général. La réponse est très simple, a été donnée par les philosophes du contrat social, c'est parce que, potentiellement, nos intérêts sont en conflit. Et qu'il peut y avoir des conflits très forts. Par exemple, pour le quinquennat, si c'est un débat qui nous intéresse politiquement, même si on ne le trouve pas très passionnant, c'est parce qu'on se dit que c'est important une constitution et qu'un mauvais usage ou une mauvaise constitution peut amener de mauvais usages politiques potentiellement dangereux. Si on parle par exemple de quinquennat non renouvelable ou deux fois renouvelable, c'est parce qu'on se dit s'ils sont trop longtemps au pouvoir, ils peuvent être dangereux. Ou bien parce que les citoyens vont finir par s'ennuyer et se démobiliser. Sur un réseau informatique, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Si vous ne vous intéressez pas, allez, aux questions de l'utilisation écologique des tandems en Nouvelle-Zélande, qui intéressent beaucoup les gens qui s'intéressent aux tandems en Nouvelle-Zélande, c'est pas grave. Ça n'empêchera absolument personne de vivre, même pas les gens qui s'intéressent à la question du tandem en Nouvelle-Zélande. Pour donner un exemple peut-être moins caricatural, mais qui est important, et je vais revenir dessus. C'est l'exemple sur lequel j'avais un tout petit peu pointé tout à l'heure. Prenons le site de l'école qui rassemble 35 élèves qui ont fait leurs commentaires, qui ont travaillé en classe avec leurs professeurs des écoles sur ce qu'ils avaient à faire, qui ont pris des photos, pas d'enfants parce que c'est interdit par la loi, mais des photos de leur école, qui ont fait un travail sur l'histoire de leur village, etc., qui ont rédigé les textes, et qui ont incorporé, par exemple, des textes de leurs correspondants. Petit intérêt. Imaginons une petite école rurale connectée. J'en connais un certain nombre dans ce style. Imaginons à côté une énorme structure d'institutions cyber-éducatives, education.com, worldeducation.com. Eh bien, quelque chose d'immense. La tendance, elle est très forte dans certaines régions de la politique, c'est de se dire, la petite école de village, dans le monde réel, elle n'est pas rentable. Il serait bien plus rentable que les élèves aient une instruction via worldeducation.com. Ça coûterait moins cher au gouvernement. Et sans même passer par worldeducation.com, s'il y a une grosse structure d'enseignement, une grosse école à 20 km, les élèves feront 20 km de plus parce qu'il n'est pas rentable de maintenir des structures, de petites structures éducatives dans un village. En revanche, dans le monde virtuel, le site de l'école rurale n'a aucun conflit d'intérêt avec worldeducation.com, ni avec le site du lycée qui peut être énorme. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que les plus gros peuvent exister comme les plus petits, sans entrer forcément en conflit. Les conséquences sont innombrables. Je me concentrerai sur les conséquences politiques. Si le réseau informatique est vecteur d'une puissante idée démocratique, c'est en raison de justement cette conception potentiellement égalitaire. Parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, après tout, on peut s'intéresser au site de l'école du village et pas du tout à des grosses machineries de sites web qui vous proposent des méga-services. Ce qui ne se passe pas dans le monde réel, où avoir un hypermarché à côté signifie que vous n'allez jamais plus chez l'épicier du village. Avec des nuances, il faut bien le dire. première idée démocratique, l'égalité. Le fait qu'il n'y ait pas de conflit, que nous puissions vivre ensemble à la mesure de nos intérêts et des échelles de nos intérêts. Deuxième grande idée, et c'est probablement l'idée la plus menacée, l'idée de liberté. Parler de communication nous ramène aussi aux sources de l'espace public démocratique avec cette grande valeur démocratique qu'est la liberté et la liberté d'expression. Si l'Internet a un usage démocratique, c'est d'abord parce qu'il permet aux gens de s'exprimer et de s'exprimer sur tous les sujets. Autrement dit, il y a une prodigieuse liberté de parole sur les réseaux. Liberté qui inquiète. Elle a inquiété aux États-Unis où l'administration de Bill Clinton a fait passer une loi qui tendait à restreindre les usages, comme on dit, illicites et préjudiciables de l'Internet. La Cour suprême des États-Unis, et d'abord les cours suprêmes des États, ont protectrice des libertés par la Constitution des États-Unis d'Amérique, ont évidemment censuré la loi. Dans notre pays, cette conception est beaucoup plus restrictive. Aujourd'hui, la question de la liberté dans notre pays, la liberté de parole, est quelque chose qui est toujours perçu comme quelque chose de pas normal. Pourquoi ? Parce que nous considérons qu'au fond, il faut avoir une certaine autorité de parole pour justement s'exprimer. Autorité qui est évidemment l'autorité politique, mais aussi l'autorité des diplômes, de ceux qui ont le droit de s'exprimer contre ceux qui n'ont pas le droit de s'exprimer ou ceux à qui on demande de s'exprimer de manière médiate. Cet accent sur la liberté a d'ailleurs troublé notamment les théoriciens orientés à gauche. On a notamment un témoignage tout à fait intéressant de Michel Resnick, professeur au MIT, qui dit que, curieusement, il a redécouvert des théories libérales à travers sa propre théorie de l'Internet. Et qu'il était très mal à l'aise, et d'ailleurs très critiqué à gauche pour cela, parce que lui-même n'était pas un libéral économique. Daniel Cohen, dans son livre « Nos temps modernes », commente le phénomène en disant « c'est normal ». Il y a toute une valorisation de la liberté et de l'action libre et de la parole libre qui trouve ses sources ou ses ressources dans le libéralisme. Égalité, liberté, je dirais, mais pas fraternité, parce que précisément, il y a segmentation des réseaux et nous ne sommes pas ensemble dans un lien de solidarité dans les réseaux informatiques. Nous sommes en contact et un réseau peut être beaucoup de choses, très utile, mais certainement ni fraternel, ni solidaire. Je dirais heureusement, car le jour où nous demanderons aux machines d'assurer la fraternité, nous serons tombés bien bas. Alors, mesdames et messieurs, j'ai mis tellement de convictions que ça aurait pu être ma conclusion, mais ma conclusion, la voici, mesdames, messieurs. Je voudrais terminer en disant qu'une bataille a été engagée, une bataille qui est celle de la liberté, sous la forme la plus radicale qui ait été conçue dans l'histoire de l'humanité. La liberté des pouvoirs spirituels de l'être humain, sa liberté de s'exprimer et de communiquer sans empêchement ni contrainte. Ce serait, si l'on veut, la lutte du netizen, du net citoyen, contre le citoyen classique, sujet des lois et de l'histoire. Non pas ce que le Premier ministre Lionel Jospin a appelé la bataille de l'intelligence. Cette bataille-là, je l'ai appelée ailleurs les rixes de l'intelligence. Ce n'est que la compétition de l'esprit considérée comme une marchandise de plus, sur un marché de plus. Dans un monde où le savoir-faire valant désormais son pesant d'or, les talents de chacun deviennent des talents au sens ancien, c'est-à-dire de l'argent. Non, ce n'est pas cette bataille-là qui est engagée par le réseau informatique. Ce serait plutôt la bataille contre cette forme de conception de l'intelligence qui la rend compétitive, qui la rend concurrentielle, marchandisable à souhait. La bataille qui a été engagée, c'est la bataille pour faire valoir la capacité de l'être humain à communiquer sans entrave, pas même celle de la personnalité civile dans laquelle les cadres sociaux l'enferment au quotidien. Cette bataille, mesdames, messieurs, j'en ai bien crainte, est en passe d'être perdue en France et peut-être en Europe continentale, partout où les traditions libérales n'ont pas été fermement implémentées. Peut-être cette société de l'information, qui, je crois, porte de grands espoirs démocratiques, est-elle déjà un espoir déçu ? Déjà, les études suggèrent que la nouvelle économie sera européenne et non pas américaine. Déjà, notre pays, la France, vient de légiférer pour abaisser la fiscalisation des stock options, pour permettre la création d'entreprises, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, et en même temps être en train de légiférer afin d'enserrer plus étroitement les gens qui publient des pages web, vous et moi, à titre personnel, afin qu'ils soient identifiés, repérés. Et avec une touchante sincérité, la ministre de la Communication, Catherine Tasca, nous explique qu'elle ne croit pas que les criminels vont s'identifier. Mais si les criminels ne sont pas concernés par ces lois, c'est donc que ce sont les honnêtes gens qui sont concernés. Et donc, c'est la liberté des gens qui respectent normalement les lois qui est concernée. La liberté du capital, oui. La liberté des personnes et de leurs paroles, non. À cette aune-là, tout idéal politique est laminé. Et, mesdames et messieurs, pour conclure d'une dernière fois, une dernière phrase, je ne suis pas tellement certain qu'il y ait lieu de s'en réjouir. Merci.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Je ne sais pas si vous êtes marié, mais moi, je vois mal la construction d'une église virtuelle avec un échange d'alliances virtuelles. Je ne pense pas que ça puisse être très égalitaire dans ce sens-là. Et puis en plus, je ne pense pas... Bon, moi, je me souviens d'avoir assisté à l'accouchement de mon fils, mais ce n'était pas virtuel, c'était réel. Je me souviens qu'il m'a pris mon petit doigt. C'était pas virtuel. Bon, et moi je pense quand même que c'est très dangereux parce que c'est anti-communication entre les gens. Vous-même, vous l'aviez dit, c'est anti-solidarité. Je pense pas que dans quelques temps, un groupe social ne pourra jamais grandir si on fait l'amour virtuellement.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le Vatican a son propre réseau et. On pense à des pratiques, notamment de confession, par l'Internet. Et ça demande des techniques de sécurisation, d'authentification, etc., assez intéressantes. Assez intéressantes, indépendamment de la question du ministère sacerdotal. Ça peut être, du point de vue de la foi religieuse, un renouveau de la confession. Car là encore, nous sommes des gens qui avons probablement plus facilement l'habitude de nous confesser par écrit, de raconter notre vie par écrit, que par oral. C'est comme ça. On sait que chez les catholiques, où la confession est normalement importante, il y a une baisse de la pratique de la confession dramatique. Les catholiques, même fervents, ne se confessent plus. Alors, pour l'Église virtuelle, oui, on peut imaginer que des catholiques, je parle des catholiques parce que ça, on voit bien avec le Vatican les questions qu'il se pose, et sur des pratiques religieuses comme la confession, peut-être pas pour le mariage, mais pour la confession, ça peut apporter un renouveau de la foi, et dialoguer dans un chat avec un prêtre, ça pourrait faire office de confession. Il faudrait voir un peu après le sacrement. Quand même quelque chose d'important. Ensuite, je crois que vous avez raison de pointer sur les dérives potentielles d'un monde virtuel où finalement on assisterait à l'accouchement de ses enfants par webcam. C'est possible. Mais là encore, vous savez, les gens sont tellement fous qu'ils feront toujours des folies avec n'importe quoi. Et après tout, il vaut peut-être mieux assister à l'accouchement de ses enfants par webcam que d'être cantonné, comme on le faisait il n'y a que 30 ans, dehors, en vous disant « ça, monsieur, c'est des affaires de femmes, ça ne vous regarde pas ». Puis de venir en vous disant « qu'est-ce que vous préférez ? Laissez mourir votre enfant ou laissez mourir votre femme ?» Je trouve que finalement, la version webcam de l'accouchement est plus sympathique. Et la troisième chose, si, parce que justement, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas accuser les pratiques sur les réseaux, même si moi, elles me semblent un peu limites, d'être aussi déshumanisantes que d'autres pratiques qui ont été longtemps répertoriées comme normales l'ont été. Il me semble plus déshumanisant, d'une certaine manière, de dire à un homme, votre femme et ce qu'elle vit en ce moment, ça ne vous concerne pas, c'est une affaire de sage-femme et de docteur si ça se passe mal. Plutôt que de dire, bah écoutez, voilà, moi j'aimerais bien voir accoucher par webcam. C'est un peu tordu, mais ça me semble moins déshumanisant. Puis la troisième chose, c'est que les rapports humains passent aussi par l'écrit. Je suis d'accord avec vous qu'une relation qui ne passerait que par le virtuel serait desséchante. Mais en revanche, je trouve assez émouvant de voir des gens qui racontent sur leur page internet ce qu'ils ont ressenti, comme vous l'avez ressenti, comme vous venez de le dire publiquement, qu'ils ont ressenti à l'accouchement de leur compagne, de leur femme. C'est un moment assez extraordinaire. Moi, je dois dire que c'est quelque chose dont je ne me suis jamais remis. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux, et qui est d'ailleurs totalement injuste pour les femmes, je le signale pour ceux qui n'auraient pas eu encore d'enfants, puisque désormais, les hommes sont beaucoup mieux placés pour vivre l'accouchement que les femmes, d'abord parce qu'ils ne souffrent pas, et parce qu'ils voient les choses de manière beaucoup plus participative. Donc l'accouchement était un truc de femmes, nous sommes nettement mieux pourvus de ce côté-là, c'est extraordinaire. Mais vous voyez, ça ne me choquerait pas que ce que vous venez de nous dire, quelqu'un le raconte sur sa page, en disant, voilà, moi c'est un récit que je trouve très beau et que j'ai envie de faire partager, c'est une émotion très profonde, ce que je suis en train de vous dire d'ailleurs, je pourrais l'écrire sur ma page personnelle, et quelque chose, et ça ne me semble ni bizarre, ni insultant, ni même dangereux, ça me semble plutôt rassurant sur la capacité d'un être humain à s'émerveiller et à le dire.
Monsieur.
Oui, je voulais souligner que vous avez considéré à juste titre que l'ordinateur est un outil, et cela vous enthousiasme, parce que vous avez un tempérament enthousiaste, et merci. J'en suis très content. Mais justement parce que vous avez été très enthousiaste, je pense qu'un outil, comme d'ailleurs, c'est un outil de langage en fait, et le langage, il faut se souvenir qu'on a dit que c'était la pire et la meilleure des choses. En particulier avec Internet, il y a des qualités, si j'ose dire entre guillemets, de rapidité, qui sont, à mon sens, préjudiciables, et d'autre part, de surinformation, et donc d'informations qui ne peuvent être qu'éphémères. Et en plus, ça ne résout pas quand même les conflits d'intérêts, c'est clair. L'individualisme forcené de notre époque, que j'aime assez d'ailleurs, contrairement à beaucoup, mais il faut bien reconnaître que ça ne résout pas les conflits de très loin. Alors d'autre part, citoyen, oui. Mais est-ce qu'il faut être citoyen du monde, ou est-ce qu'il faut être citoyen de tel ou tel groupe ?
Alors, là encore, c'est une façon très, très riche. Je réponds rapidement. La rapidité ne me semble pas un vrai problème. Je crois qu'il faut aussi savoir que notre vie est faite d'éphémères. Et notre vie elle-même est éphémère. Donc, ça, c'est un retournement qui s'est opéré au 19e siècle, notamment avec Nietzsche, qui disait, après tout, il n'y a pas que le fondamental dans la vie. Il y a des choses qui se prêtent, comme ça. Une information, un courrier, juste un petit mot. Bonjour, ça va, moi ça va bien, bon, j'ai pas eu de tes nouvelles depuis longtemps. Juste un petit mail, trois lignes, comme ça. Et même si c'est tout petit, tout éphémère, et qu'on l'effacera après, bien, c'est juste un petit point de contact avec d'autres êtres humains, et c'est pas mal. La deuxième question est plus compliquée. Citoyen de notre communauté ou citoyen de groupe d'intérêt, c'est en effet la question que j'ai évoquée. À mon sens, je serais plutôt à dire les deux. Mais en tout cas, ce n'est pas la même chose, et vous avez tout à fait raison. C'est vrai que quand on s'intéresse à certaines choses, on ne s'intéresse pas forcément à d'autres. Et par exemple, si vous intéressez à certaines questions sur un réseau, par exemple, si vous aimez discuter de la politique des États-Unis, parce que vous aimez bien cette question et que vous n'êtes pas américain, finalement, vos contacts vont être plutôt avec des gens qui sont très très loin, que vous ne connaissez pas, qu'avec des gens qui sont tout près et que vous connaissez éventuellement. Mais en même temps, on peut dire que c'est pas mal parce que justement, c'est une vision cosmopolitique du monde, et le fait est donné de chez soi d'être cosmopolite, et ça, c'est peut-être aussi un avantage. Comme vous le dites, je crois que moi, je partagerais tout à fait votre vision nuancée. L'individualisme forcené de notre époque, nuançons-le. Nous sommes des individualistes très généreux. Regardez les prélèvements sociaux en France. Plus de 45% de la richesse nationale passe dans les prélèvements sociaux. Autrement dit, nous sacrifions près de la moitié de notre revenu collectif pour le redistribuer. Comme individualisme forcené, on fait mieux. C'est plutôt sympa. Il y a très peu de sociétés dans le monde qui ont accepté de redistribuer autant d'argent. Donc, individualisme forcené, peut-être, mais avec des nuances. Mais moi, je partage en tout cas cette vision. Cet individualisme forcené est extrêmement dangereux, mais quand même fondamentalement intéressant et plutôt sympathique quand on n'est pas méchant. Et je dis ça parce que très souvent, vous savez, être méchant, c'est quelque chose qu'on n'ose plus dire. Il y a des gens méchants, il y a des gens pas sympathiques, mais il y a des gens méchants qui font le mal. Et la méchanceté est un concept moral qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, même si c'est un concept qui fait rigoler les philosophes.
Oui. À vous, oui, Jean. Toute Merci. Gentillesse.
Non, j'ai effectivement beaucoup apprécié l'essentiel de la conférence, et en particulier la conclusion sur la liberté et tous les enjeux concernant la liberté d'expression de façon évidente, même si systématiquement quand je suis amené à vanter les mérites d'Internet, on me renvoie les négationnistes, les pédophiles, etc. Et ma première réaction est en général de montrer les gens qui font un travail positif sur ce terrain, et Dieu sait qu'il y en a un nombre tout à fait important. J'aurais tendance à faire le parallèle, moi, avec l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'effectivement, la politique, très très fréquemment, a utilisé l'audiovisuel comme un moyen de diffuser de par ceux qui ont le pouvoir, l'autorité, un message, en espérant drainer vers eux un nombre d'électeurs suffisant. Et en fait, il n'y a pas une différence énorme par rapport aux techniques commerciales, et c'est pour ça qu'on parle parfois de politique spectacle. Et ce moule a été changé, me semble-t-il, par l'arrivée des radios libres, où il y a... auquel j'ai participé comme un certain nombre de gens de cette salle, où il y avait localement la possibilité d'avoir une autre parole très artisanale. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu ? En peu de temps, en 3 ans, 4 ans, tout ceci a été submergé par des réseaux qui avaient, bien évidemment, des moyens techniques, des moyens professionnels et financiers nettement plus importants. Alors, je crains, d'une certaine façon, que c'est également ce qui se passe probablement pour Internet. C'est-à-dire que l'Internet pionnier de 96-97 jouait beaucoup de ces réseaux que vous évoquiez, et qui fait que, d'une certaine façon, moi, comme l'ensemble des gens ici, on peut avoir des correspondants qui sont à l'échelle planétaire. Alors, attention, pas des centaines de milliers, pas des millions, des gens choisis que l'on rencontre physiquement. Et je tiens à cette relation permanente entre le réel et le virtuel, sachant qu'on écrit beaucoup plus en virtuel aux gens que l'on connaît physiquement. Ce qui, bien évidemment, rétablit aussi une dimension importante de la démocratie. Et donc, j'aurais tendance, moi, à défendre ce réseau sur 2 points. Celui, justement, de gens qui ont envie de s'impliquer et de s'engager, et qui, par conséquent, auront des points de vue à défendre, auront des arguments à développer. Or, je pense que la démocratie, c'est aussi l'affrontement entre des points de vue pour faire prendre une décision qui soit autant que possible pensée, cohérente et réfléchie. Et pour finir, l'autre élément qui me semble important et qui fonctionne, je crois, remarquablement bien, c'est l'idée qu'une démocratie n'existe pas sans contre-pouvoir. Et à un moment où on voit effectivement un certain nombre de groupes, Vivien dit quelques autres, être intéressés parce qu'il y a effectivement un profit à faire, on s'aperçoit qu'il peut y avoir sur un certain nombre de points des grains de sable qui font qu'on s'aperçoit effectivement que le système redevient démocratique. Voilà, c'est tout.
Merci, Daniel Touzet, de cette...
Oui, vous... Madame.
Si vous voulez, je vais...
Si vous voulez bien, levez... D'ailleurs, Monsieur Leterre a entendu votre interjection, mais par ailleurs, levez la main et on vous apportera tout simplement un micro pour que tout le monde vous entende. Ce sera beaucoup plus commode. Je vous en prie.
Oui, donc, Daniel Letouzet, vous êtes un acteur de l'Internet. Merci de m'avoir d'ailleurs passé les documents que vous m'avez passés sur cela. Et c'est des gens comme vous qui font la qualité de l'Internet. Et pour les négationnistes, je ne tolère pas que des gens qui sont des crapules gâchent le travail d'une immense majorité de personnes impliquées, et qu'ils soient l'arbre qui cache la forêt de ceux qui font un vrai travail avec une vraie conviction. Et après tout, ça a toujours été l'argument contre la liberté de la parole, de dire qu'il y avait des méchants et des crapules. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous préférons parler des négationnistes que des crapules. Nous préférons parler des crimes contre l'humanité que du mal. Pourquoi ? Parce que simplement, ça nous semble plus moderne. Il y a toujours eu des mauvais et des méchants. Il y a toujours eu des mauvais et des méchants. Il est indigne de dire que cela pose plus de problèmes sur les réseaux informatiques que ça n'en pose dans le monde réel. Le mal, la violence... La haine sont des mots récurrents de l'humanité. Ce ne sont pas des mots inhérents au réseau informatique. Et vous me permettrez d'être un peu passionné sur cette question, car je trouve que c'est la plus mauvaise chose à dire en face de la liberté de la parole que de répondre « il y a des gens qui en usent mal ». Car nous n'avons pas attendu le 21e siècle pour qu'il y ait des imbéciles. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre question ? C'est est-ce que les négationnistes sont plus que des crapules ou des imbéciles ? Personnellement, je pense que non. Moi, je dois dire que, sur le fond, je comprends que ça heurte la mémoire de ceux qui ont souffert, mais ce sont des abrutis. Et là encore, disons-le, il y a des mots simples qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Je disais tout à l'heure, le mot méchant, ça existe, utilisons-le. Le mot abruti, ça existe aussi, utilisons-le. Mais que cela soit de nature à remettre en question la prodigieuse, efficace implication libre de tant de personnes qui y passent du temps, eh bien ça, je dois dire que j'ai du mal à le digérer. Alors maintenant, sur tout ce qu'on peut faire avec les réseaux, moi je suis très sensible à ce que vous dites et à la manière directe dont vous le dites. Je pense qu'il faut être vigilant, et c'est un de mes grands regrets sur les politiques publiques menées sur les réseaux informatiques. Plutôt que d'essayer de restreindre, comme on le fait récurremment, la liberté de parole, au nom du fait qu'on peut y faire des choses horribles. On n'y fait pas des choses horribles, on peut dire des choses horribles. Au lieu de faire ça, il y a d'autres aspects des politiques publiques qui devraient être beaucoup plus importantes. Veiller notamment à la diversité. Veiller à ce que les plus puissants n'étouffent pas la diversité, comme ça s'est passé, en effet, pour les radios libres. Et de ce point de vue-là, l'État a été complice de cet étouffement, car c'est l'État qui a attribué les fréquences aux plus offrants. Eh bien, là, l'État aurait très bien pu dire « Non, moi, il me faut un siège social dans telles conditions, tel quota, etc. » Ça n'aurait pas été rentable économiquement. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle du politique de dire « Il n'y a pas que le rentable dans la vie ?» Cela dit, le danger est moindre sans doute sur l'Internet que sur la radio, parce que l'abondance est plus grande. C'est-à-dire que sur les radios, vous n'avez pas des fréquences en nombre infini, alors que l'espace des disques durs n'est pas infini, mais en revanche, il est très large. Là encore, il n'est pas infiniment large si les intérêts commerciaux les plus éhontés dominent. Les intérêts commerciaux les plus éhontés, ça veut dire aussi les intérêts monopolistiques. Je ne suis pas quelqu'un qui suit contre le commerce. Je trouve très bien qu'il y ait une sphère de commerce dynamique, mais une sphère de commerce dynamique, ça veut dire la concurrence. Donc, vigilance à cet égard, et disons aux politiques et à ceux qui mènent des politiques publiques, il y a des choses à faire pour veiller à la diversité et pour développer. Moi, un de mes dadas de bataille, c'est la faiblesse de la francophonie française sur le réseau informatique. C'est quand même extraordinaire. Nous avons un prodigieux levier par notre langue, sur le monde entier, et nous le sous-utilisons. Ça, je trouve ça assez lamentable.
Alors, je vais organiser un tout petit peu le réseau pour, on va clore en quelque sorte le marché, non pas tout de suite, hein, mais pour que les gens sachent que c'est bientôt la fin des questions. Nous avons une question là-haut, une question ici, deux personnes qui ont déjà le micro, donc avantage certain. Vous, monsieur, et je ne vous voyais pas. Vous, monsieur, et vous serez le... J'en suis désolé, mais il faut bien terminer et vous serez le dernier. Voilà, c'est organisé, je vous en prie.
Oui, vous nous avez décrit ici. Là. Vous nous avez décrit, au fond, un monde non structuré. Et c'est ça sa qualité première, d'après ce que vous nous avez décrit. Ce que je me demande, c'est bon, c'est un fait assez récent qui date de 3 ans ou 4 ans, à tout casser. Je me demande si dans 10 ans ou dans 20 ans, quand se seront penchés sur ce net monde des spécialistes du marketing, des gens qui auront fait des études pour savoir quels sont les sites qui sont visités par les 80%, etc., etc., s'il n'y a pas un très grand risque de voir effectivement tout le réseau utilisé par un Machiavel, un Hitler ou Dieu sait quoi. Alors, aujourd'hui, c'est pas structuré, mais ça peut très bien rentrer dans un esprit structuré.
Oui, c'est vrai. Alors, cela dit, moi je pense que les choses ne vont pas spontanément, comme je disais, il y a un rôle politique là-dessus qui est essentiel. C'est vrai aussi que le rêve, ce serait, notamment pour des intérêts aussi bien politiques que commerciaux, de structurer les choses. Cela dit, les réseaux me semblent à la pointe d'une évolution sociologique où nous sommes de moins en moins structurés dans nos vies. C'est-à-dire que de plus en plus, notre sociologie est éclatée. Autrefois, des variables simples, la classe sociale permettait d'expliquer 80% de nos comportements. Vous étiez ouvrier, paysan, professeur, eh bien, d'une certaine manière, vous vous leviez en ouvrier plutôt que la moyenne nationale. Vous mangiez en ouvrier, vous trempiez votre pain dans votre bol de café au lait, comme les paysans d'ailleurs, mais pas comme les professeurs. Vous continuiez votre, vous alliez au travail comme un ouvrier, à bicyclette, pas en voiture. En revanche, si vous étiez en professeur, c'était plutôt en transport en commun, parce qu'il y avait une conscience de la collectivité. Mais si vous étiez cadre supérieur, il fallait montrer votre voiture, etc. Donc, vous voyez, une variable sociologique simple permettait d'expliquer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans une société plus éclatée que cela. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, ce n'est pas simplement les réseaux qui ne sont pas structurés, mais si nous utilisons les réseaux et si nous nous y reconnaissons si bien, c'est que nos propres modes de vie sont déstructurés et ça permet déjà une résistance. Par ailleurs, pour être lié à ces aspects déstructurés, le marketing s'adapte. C'est de plus en plus un marketing de niche. Donc le marketing est de plus en plus précis et aussi il y a probablement des intérêts commerciaux à le laisser déstructurer parce que ça permet de faire vivre des niches. Hein. Des choses, mais vraiment toutes bêtes, par exemple, des choses que vous avez très fréquemment aux États-Unis, les marchands de drapeaux, c'est marrant, vous pouvez acheter, donc c'est très simple, vous pouvez acheter des drapeaux de tout et n'importe quoi, y compris de l'Union européenne, aux États-Unis. Bon, alors celui qui a un petit business local, bah, via l'Internet, il arrive à faire sa niche et arrive assez bien à les faire. Et ce n'est pas un marché si immense que, disons, un très très gros acteur commercial va s'y mettre parce que la multimondiale du drapeau synthétique, vous voyez, ça ne fonctionne pas très bien.
Oui, c'est ici.
D'abord.
Vous avez évoqué la question de la démocratie, non pas, me semble-t-il, sur la base d'un décalage sémantique. Vous avez parlé de liberté, égalité, fraternité, qui sont des principes de la démocratie, mais qui ne sont pas la démocratie. La démocratie, c'est un pouvoir d'action. Or, il me semble que dans la mise en réseau de nos foyers par l'Internet, le pouvoir d'action n'est pas à chacun d'entre nous, mais à ceux qui sont capables d'interpréter ce que vous venez de dire, nos comportements, nos habitudes de consommation, et nous mettre en fiche. Et on n'est pas là dans l'esprit de finesse, on est réellement dans l'esprit de géométrie. Alors je voulais savoir si vous n'abusez pas un peu du sens que veut donner justement cette mise en relation qui est très très hard, qui n'est pas du tout l'esprit de finesse a existé et ça n'est pas Internet qui nous permet de mettre en œuvre. C'est notre esprit, l'esprit de finesse. Par contre, Internet, c'est par exemple parce que je prends un exemple, il est bête, il n'est pas réaliste, mais il pourrait se produire. C'est parce que votre fils de 12 ans qui est en 6e fait une recherche sur la démocratie de la Rome antique. Il inscrit sur un moteur de recherche le mot Spartacus, par exemple, et vous vous retrouvez inscrit à un réseau de pédophilie, par exemple.
Bon. Je vous dirais très simplement que, étant professeur, je ne laisserai jamais mes enfants faire des recherches seuls, que ce soit dans une bibliothèque ou non. Si. Et c'est justement très important. C'est que il y a quelques années, j'avais participé à une table ronde sur le multimédia et la famille. Je disais aux gens, mais occupez-vous de ce que font vos enfants. Si vous avez un enfant qui vous inscrit sur un réseau pédophile, c'est très simple. Appelez la police et vous aurez fait votre devoir de citoyen, car, en effet, vous aurez réussi à démanteler un réseau. Alors, ça, à une application très réaliste, c'est l'affaire Yahoo.com. Écoutez, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? On vend des objets nazis aux États-Unis via un site qui a son siège en France. La vente d'objets nazis sous le manteau en France, ça existe. Et c'est rarement sanctionné. Eh bien, là, grâce à l'Internet, on a pu agir, on a pu prendre une décision de justice ferme contre une puissance financière en lui disant « Désolé, ça n'a pas été un arrêt révolutionnaire, contrairement à ce qu'on a dit. Non, désolé, voilà. Monsieur Yahoo, vous êtes une firme internationale, mais vous avez des activités en France, vous devez respecter les lois françaises. Là, vous les avez violées gravement, donc vous n'avez pas le droit d'exercer votre activité. » Et pour la vente d'objets nazis, je vous assure que c'est extraordinaire. Je peux vous donner un autre exemple. C'est sur la violation des copyrights. Moi, j'ai des correspondants qui m'écrivent en disant « Voilà, monsieur Leterre, j'ai trouvé sur tel site un article repris, je trouve ça pas juste, etc. J'ai envoyé un petit mot à Libération dans le texte qui a été produit du texte, qui a agi auprès de la personne qui avait fait ça, très gentiment d'ailleurs. Mais c'est la première fois qu'on m'avertissait du photocopiage. J'ai jamais eu personne qui me disait « Monsieur Leterre, vos ouvrages, vous comprenez, on les photocopie. Votre manuel, les étudiants, ils les photocopient au lieu de les acheter. » C'est la première fois que quelqu'un se souciait de mes droits intellectuels. Donc, il est, me semble-t-il, caricatural de penser que vos enfants vous emmenez dans une puissance nébuleuse qui ferait des complots, parce que précisément, dès que vous vous en rendez compte, vous pouvez agir. Et ça, c'est le monde réel. C'est le monde réel, et c'est une affaire très récente qui s'est passée avec Yahoo.com, où on voit que finalement, l'Internet a été plutôt un bon moyen juridique.
Monsieur ?
Oui, je voudrais vous poser une question et voir la réponse que vous me donnez par rapport à celle que m'a donnée la CNIL. Quand vous faites partie d'une association d'anciens d'une ville, très loin, et est-ce qu'un membre de cette association a le droit de créer un site internet et de balancer, comme on dit, tous les noms et adresses des gens qu'il trouve sur l'annuaire, tout ça pour des commodités de rassemblement dans telle ou telle ville ? Est-ce qu'on a le droit de faire cela ?
Écoutez, je n'en sais rien, c'est la CNIL de le dire.
Non, mais la CNIL m'a dit, celui qui crée un site est responsable de ce qu'il met dedans. Donc, s'il met des noms et des adresses, il doit avoir l'accord de chacun des membres de l'association.
Oui, ça
en plus de celle du président et du comité de...
Ça me semble une bonne réponse.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes d'accord avec moi de faire la différence entre découverte et invention ? Oui.
On va voir.
Bon, alors tous les progrès dans n'importe quel domaine n'est qu'une découverte par le biais du facteur vitesse. L'informatique ne fait que véhiculer l'esprit de géométrie et de finesse, mais il n'invente pas l'esprit de géométrie et il n'invente pas l'esprit de finesse. Il fait véhiculer donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et donc lorsque je vois des gens qui s'offusquent contre les inconvénients de l'informatique et de l'Internet, je m'étonne, parce que ce n'a fait qu'agrandir les défauts et les qualités de l'espèce humaine. Et tout ce que vous avez dit d'ailleurs est juste, c'est que tous les défauts vont être clairs pour tout le monde, pour que nous prenions notre responsabilité. Bien entendu, il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, vous connaissez les avantages. Il y a le fisc qui va prendre de la liberté. Il y a aussi le renversement de preuves entre les particuliers. Ça veut dire pas renversement de preuves, mais il y a une discrimination, c'est-à-dire renforcer la preuve. Est-ce que je dois encore aller vite ?
S'il vous plaît.
Bon.
Je n'osais pas vous le dire.
D'accord. Mais aussi, il y a des avantages détectés, par exemple, les fraudes électorales, la rapidité des transactions, etc. En tout cas, ce qui est très important, c'est que la minorité dans les pays, surtout dans les pays sous-développés, va pouvoir s'exprimer enfin. Et c'est, je crois. Et puis, concernant ce qu'elle a dit, la dame tout à l'heure, elle a parlé du négationnisme. On va aussi apprendre qu'il existe les négationnistes de Dieu par rapport aux négationnistes des hommes. Et il y a aussi les deux poids et deux mesures, c'est-à-dire on interdit un livre qui a été publié par, par Bucaille, Maurice Bucaille, mais on permet et on s'offusque contre celui qui a été publié par Salman Rushdie.
En conclusion, j'ai une chose très simple. Je vous remercie de votre, confiance dans l'étendue de mon savoir et de mes compétences. Mais malheureusement, je vous avouerai, j'ai une limite. Je ne suis pas théologien.